de se dire qu'il n'a jamais été trop tard et qu'il reste des choses à faire, ça vous oblige à être en mouvement. C'est quelque chose qui vous force à prendre votre part. Moi, de toute façon, je dirais malheureusement ou heureusement, c'est un peu la seule chose que je puisse faire, c'est écrire. Vous, vous pouvez faire des émissions et vous pouvez parler et moi, je peux écrire. Donc, il faut le faire.
Une échappée avec Lola Lafont, c'est Totémique jusqu'à 10h. Et oui, vous vous en doutez, je n'avais pas vu que le micro était ouvert pour tousser. Alors c'est d'une voix à peu près claire que je vous livre enfin ce sommaire. Le premier livre de Lola Lafont s'intitule « Une fièvre impossible à négocier ». Et le dernier, « Il n'a jamais été trop tard ». Une vingtaine d'années séparent ces deux titres et le même geste les relie. Le refus du renoncement, un refus ferme et humble en même temps. Dans « Il n'a jamais été trop tard », Lola Lafont écrit sur les faits et les mots des deux dernières années, mots M-A-U-X et mots M-O-T-S. Les manifs contre les retraites, la mort de Naël, le procès de Mazan. Elle écrit aussi sur l'amitié, les vœux, l'attente d'un homme qu'on aime. Je l'ai retrouvée à Beauvais, devant un bâtiment qui s'appelle la Maladrerie. C'est une ancienne léproserie où le théâtre de la ville a trouvé temporairement refuge après un incendie. Lola Lafont doit y jouer le soir même avec le musicien Olivier Lambert. Leur spectacle s'intitule « L'état de nos vies » et c'est la dernière date de leur tournée. Je tiens le micro avec des moufles et nous attendons toutes les deux devant la porte fermée.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
On peut rentrer ? Ah, je crois qu'on peut rentrer.
Ok.
Ok, merci.
Pardon. Merci.
Oui, c'est quand même assez dingue.
Waouh ! C'est un bâtiment du XIIe siècle, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Toute la charpente. Oui ?
Il y a une bonne acoustique. Hein.
Ouais. Ah ! Le XIIe siècle, c'était costaud.
On va se mettre au premier rang.
Bah oui.
Et en fait, c'est pas la première fois que vous montez sur scène. Enfin, vous avez fait des spectacles autour de vos livres, de vos romans précédents, avec de la musique. C'est quelle expérience d'être sur scène ?
Moi, ce que j'adore, c'est l'idée qu'on trouve toujours quelque chose de nouveau dans le texte. On s'appuie sur un autre mot. Et en ça, moi, ça me fait beaucoup penser à la danse ou à l'escalade, d'ailleurs. C'est-à-dire que vous prenez appui sur un mot différemment chaque soir et vous dites « Ah, là, je me suis appuyée sur ce mot-là, sur cette phrase-là. » Et puis, ça a tenu. Et non seulement ça a tenu, mais ça a donné un autre sens. Donc, oui, vous jouez avec le sens sans changer les mots.
Comme vous avez fait bon, de la scène comme chanteuse, comme danseuse, est-ce que la position de la danseuse, ça a à voir avec la position de l'écrivain ? Est-ce qu'il y a des points communs entre les deux ?
Oui, 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 ça j'en suis persuadée. Je pense que la danse a vraiment marqué, a influencé ma manière de voir l'écriture et d'écrire. Parce que je vois vraiment je vois un parallèle entre le revenir tous les jours, le revenir à la barre, le revenir sur le texte, parce que moi j'ai réécrit beaucoup. J'écris, je réécris tout le temps. Donc le rapport pour moi, il est dans la répétition et aussi dans la capacité à supporter l'humiliation de soi. C'est-à-dire la danse, quand même, à un moment donné, c'est savoir qu'on a un modèle qui n'est pas une personne. On sait le mouvement parfait. On connaît, on sait comment c'est une très belle arabesque. Et on va se heurter à ses limites, tout le temps. Le miroir, il n'est pas là pour que vous admiriez dans la danse. Il est là pour vous montrer les défauts. C'est pas du tout pareil. Et dans l'écriture, finalement, quand vous vous relisez, vous vous heurtez à vos limites, tout le temps. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous voulez dire. D'une certaine façon, il faut mettre son orgueil un peu dans sa poche quand on écrit. Parce que vous allez mettre du temps, ça va être compliqué, vous allez peiner. Le rapport avec la danse, il est très là, quand même.
Et puis, il faut pouvoir en vivre de son écriture.
Bien sûr. Ouais. Moi, j'aurais jamais imaginé que je pourrais vivre de l'écriture.
Dans « Il n'a jamais été trop tard », Lola Lafont écrit « Entre 1994 et 2003, j'ai vécu dans ce qu'on appelle aujourd'hui une fragilité économique assumée. Je fus serveuse dans un salon de thé, un restaurant, vendeuse dans des boutiques de prêt-à-porter et des parfumeries. Je répondis aux milliers de lettres d'amour que ses fans écrivaient à un chanteur. Je travaillais comme hôtesse d'accueil d'une compagnie d'assurance, d'une maison de disques ou au mondial de l'auto. Je fus figurante et enfin assistante traductrice auprès d'un coach d'acteurs américain. Cette succession d'emplois suscitait parfois parfois l'étonnement. À près de 30 ans, ça n'allait nulle part. N'avais-je pas envie de faire quelque chose de ma vie ? Ce nulle part, en vérité, était un espace et il m'appartenait. Un lieu préservé, libre d'enjeux et de plans de carrière, où écrire. L'écriture ne promettait rien, mais permettait tout. Et dans la page précédente, on lit « J'écris quand je ne sais pas. Quand je ne sais pas si je saurai un jour. »
Vous, vous êtes sur Instagram. Est-ce que le fait d'être sur Instagram a changé, non pas votre écriture, mais votre rapport à ça ?
Alors, ce qui a pu, ce qui a failli, je dirais, changer mon rapport à l'écriture, c'est plutôt la publication de certains textes sur les réseaux sociaux et de voir les réactions. Ça m'a beaucoup questionnée. Parce que quand on écrit des livres, on ne voit pas les réactions, évidemment. Les gens partent. Après, on se rencontre. C'est très différent. On est face à face. Là, de voir des réactions parfois très violentes, à l'emporte-pièce, et parfois complètement. Où je sentais bien que les gens avaient lu juste le titre. Ou... Ça m'a bien remué. Et je me suis dit, oula, il va falloir t'extraire de ça, parce que sinon, tu vas écrire pour. Tu vas écrire pour.
Ou contre,
ce qui est pareil finalement au bout du compte. Donc voilà, après Instagram, là où je trouve que c'était assez positif, enfin amusant, c'est que par exemple, quand Sinéad O'Connor est morte, j'ai mis une phrase sur elle, et notre metteur en scène, Emmanuel Noblet, qui lisait, m'a dit « Ah mais tu devrais écrire quelque chose là-dessus ». Et c'est parce que cette petite phrase a circulé qu'il m'a dit ça.
C'était quoi cette phrase ?
Que Sinéad O'Connor, elle hurlait aussi fort qu'on se taisait dans les années 90. Et quand ça, elle nous vengeait. Et c'est vraiment ce que je ressentais pour elle, en fait, à l'époque. Très confusément, hein, d'ailleurs. Hein. C'était évidemment, c'est totalement rétrospectif, parce que je le voyais pas comme ça. Mais quand même, je me souviens bien d'avoir vu cette fille pleurer, quand elle pleurait dans le clip de Nothing Compares to You. Et les larmes étaient tellement frontales que j'avais l'impression qu'elle disait « Bon, je pleure pour toi ». Il y avait quelque chose de christique, en fait, qui était étrange, hein, qui était très étrange.
On va l'écouter,
okay.
Parce que c'est précisément Sinéad O'Connor et l'interprétation de cette chanson, Nothing Compares to You, que vous avez choisie pour aujourd'hui.
C'est sa voix qui m'a... Je me souviens vraiment de ce que je pensais à l'époque et maintenant je l'exprimerai autrement. Il y a quelque chose de géométrique. C'est-à-dire que là où vous avez des chanteuses que j'adore aussi, moi il y a plein de chanteuses que j'adore. J'adore Beyoncé, par exemple, je l'ai écoutée hier. Ça n'a rien à voir, mais je l'adore. Et là, il n'y a pas de vibrato. Il n'y a pas de trémolo. Ça veut dire que les fins de phrase, c'est comme des traits. Vous avez des lignes. Elle trace des lignes, il y a des traits... elle a une technique phénoménale, hein. Elle peut faire ce qu'elle veut, si elle a envie, elle peut mettre du vibrato, elle peut faire ce qu'elle veut. Non, les phrases sont toutes droites. Moi, c'est ça qui me fascine. Elle hurle pas, d'ailleurs, mais dans le clip, ça se voyait aussi, elle ouvrait la bouche quand elle chantait.
Elle mord,
exactement. Et il y a de ça dans sa voix, il n'y a absolument pas de plainte. Elle trace.
Dans « Il n'a jamais été trop tard », Lola Lafont revient sur le geste de Sinéad O'Connor dans l'émission « Saturday Night Live » le 3 octobre 1992. Après avoir interprété un morceau de son nouvel album, Sinéad O'Connor entonne « War », une chanson de Bob Marley. Une fois celle-ci terminée, elle brandit la photo d'un homme vêtu de blanc qui ouvre grand les bras. Et Lola Lafont écrit « Puis Sinéad O'Connor déchire posément Jean-Paul II » et lance les morceaux en concluant d'un « Fight the real enemy ». La chanteuse souffle une à une les bougies blanches d'un chandelier désuet, le romantisme d'un décor de pacotille s'éteint, un faible bravo fuse, un seul, qui s'échappe d'un public invisible.
Et ce qui va suivre, c'est un bashing énorme, mais mondial, et elle va monter sur scène, c'est ce que je décris dans « Il n'a jamais été trop tard », au Madison Square Garden, un concert...
en hommage à la carrière de Bob Dylan. Et là, elle va être huée pendant plus de 3 minutes par une foule, mais ivre de rage. Et j'ai regardé, pour écrire le texte, j'ai regardé la vidéo en boucle, comme je fais souvent. Et pour voir, en fait, c'est ça, en fait, aussi, ce livre, c'est-à-dire, c'est de revenir sur des images et des mots, des images aussi, parce que les images, ça m'intéresse, et de regarder ça comme une fiction, en fait. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Vous avez cette fille, très jeune, frêle, comme ça, qui se tient face à, je crois que c'est 300 000 personnes, c'est un truc de dingue, qui hurle dans une haine vraiment folle, et elle ne va pas bouger. Elle ne bouge pas. Moi, ça me... D'abord, on sait, sans faire de métaphore, il y a des gens en coulisses. C'est-à-dire que les chanteurs qui sont en coulisses vont jamais la rejoindre. Ni Dylan, ni personne. À part Kris Kristofferson qui va venir, elle est seule. Elle est seule avec les mots qu'elle a dit. Elle a déchiré le silence, en fait. Et il faut qu'elle endosse ça. Donc forcément, c'est bouleversant, en fait. Et à un moment donné, elle en a marre. Mais c'est très, très, très long. Elle en a marre et elle dit « Ok, ça suffit ». Et elle leur rechante ce qu'ils ne veulent pas entendre. Elle leur rechante « War ». En changeant les paroles, en parlant des violences sexuelles sur mineurs. Et donc, finalement, pour moi, en tout cas dans la pop, je crois que c'est la première fois que quelqu'un, une femme, va dire « Vous allez écouter ce que je vais vous dire ». Et ça ne vous fait pas plaisir, quoi. Et sa carrière, évidemment, a été... on a hyper bâti. C'est très sacrificiel. Je ne sais pas si elle le savait, mais en tout cas, voilà, c'est un courage fou.
Tuyos perdidos entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria me has disparado. Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y no presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor.
Cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre.
Il n'a jamais été trop tard, c'est le titre du nouveau livre de Lola Lafont. Un recueil de textes nourris de ses articles écrits pour le journal Libération, son regard sur des faits collectifs, des expériences personnelles qui nous racontent toutes et tous, et son questionnement des mots. Lola Lafont écrit « Les mots vieillissent à nos côtés, on s'y accroche comme aux années, on rechigne à les quitter. Les mots, on voudrait les porter encore alors qu'on ne rentre plus dedans. Terminez les « t'es pas cap », les « c'est pas moi, c'est lui » de la cour de récréation. Ils nous passent comme une maladie, les mots. Ils nous émeuvent à la manière d'une photo retrouvée. Oui, on disait « à donf » en 1998. Parfois, ils nous signalent les contours d'un horizon qui menace, celui de notre fatalisme las. On se l'était juré, on ne serait jamais de celle qui conclut une conversation d'un « c'est comme ça ». Et voilà qu'au lieu d'un « au revoir », on se souhaite quotidiennement « bon courage », cet aveu d'adulte brisé.
Mais c'est quand même très significatif. En fait, il y a un vrai glissement. On n'a pas toujours dit bon courage. Donc, ça suppose aussi qu'on a intégré l'idée d'un vécu quand même difficile. Enfin, je veux dire, c'est clair que si on souhaite bon courage, c'est pas juste une formule. Ça a un sens. De la même façon que maintenant, on dit beaucoup pour dire au revoir, on dit prends bien soin de toi. Donc, il y a l'idée qu'on va affronter quelque chose qui paraît inéluctable et qui a l'air cataclysmique, quoi. Donc, oui, c'est une vision de l'extérieur qui a changé. Moi, je le vois comme ça. Par exemple, fragile, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était devenu une insulte. Mais c'est intéressant, quoi. Parce que ça pourrait être aussi... c'est beau, la fragilité, ça pourrait être la capacité à être touché par quelque chose. Eh ben non, ça devient finalement une insulte parce qu'on ne supporte pas assez bien les coups. C'est comme si ça venait du combat.
Mais d'ailleurs, le revers de fragile, si on peut dire, c'est que le mot qui a beaucoup émergé ces derniers temps, c'est l'adjectif puissant ou puissante.
C'est vrai que ça me questionne beaucoup, moi. Ça me questionne beaucoup parce que, effectivement, ça peut être quelque chose de très positif, le pouvoir, la puissance, etc., réapproprié par le féminisme. Et pourtant, ça me questionne parce que, alors peut-être parce que j'ai vraiment... j'adore être l'avocate du diable, quoi. Je pense que j'adore cette position de me dire « Ah ouais, bon, voyons ce qu'il y a derrière. » Et ce qu'il y a derrière, c'est quand même que ça laisse sur le bas-côté qui n'adhérera pas, qui ne pourra pas, qui ira plus lentement, etc., incontestablement. Donc ça reproduit quand même une sorte d'ode à la capacité de s'en sortir seul, etc. C'est un peu comme le concept de résilience qui en réalité, pour moi... dit juste que il faut être capable de repartir très vite, même un peu moins vite, mais c'est-à-dire que c'est quand même la capacité à refonctionner. Et on peut ne pas avoir envie de fonctionner. En fait, on peut, à un moment donné, se dire « Non, je ne fonctionne plus, et je vais en faire autre chose. »
Est-ce que vous avez une carte blanche ?
Oui, du coup, dans mon ordi, parce que là...
Ouais, pas de problème. Donc là, pour votre carte blanche, oui. Vous avez sorti votre ordi.
Oui.
Il y a des post-it sur le clavier, d'ailleurs.
Oh là là, oui. J'ai un rapport un peu compliqué à l'ordinateur, c'est-à-dire que c'est un peu ridicule, c'est-à-dire que je ne peux pas les quitter. Donc là, c'est un ordi qui est vieux, qui a plein de problèmes, et je n'arrive pas, et j'en ai un nouveau que je n'utilise pas. C'est grotesque. C'est un rapport très affectif avec l'ordinateur. J'ai un peu honte.
C'est quoi, c'est de la superstition ?
Ouais, j'ai peur que ça, en vérité, voilà, exactement, ça s'appelle un peu comme ça, quoi. Je dois vous dire que le dernier, celui d'avant, il tenait avec des pinces à linge, là, c'est-à-dire l'écran se détachait, et les gens qui voyaient ça me disaient « tu peux pas continuer comme ça ». Et il effaçait des bouts de texte au fur et à mesure, parce qu'il déconnait le pad. J'ai écrit « quand tu écouteras cette chanson dessus ».
Ouais, c'est ça, c'est quand on a écrit un texte dont on peut être content, on se dit « ah ben, ça va me donner le même pouvoir ».
Exactement. Ben, je vois que vous connaissez.
Et ouais,
je suis pas seule. Du coup, je le lis ?
Ouais.
Ok. Ouais. Eh bien, j'ai voulu vous lire quelque chose sur l'inquiétude. Donc, l'inquiétude, du bas latin inquietudo, agitation trouble, c'est l'état de celui ou de celle qui bouge, qui est en mouvement. Loin de n'être qu'une sensation, c'est une dynamique. Il y a une respiration dans l'inquiétude, un allant. Pourtant, elle traverse une mauvaise passe, l'inquiétude. La voilà bannie, traquée et chassée de toutes parts, indésirable. Elle alarme. L'intranquillité, c'est un symptôme à soigner. Un parasite désuet, une fièvre à faire baisser. Êtes-vous inquiet ? Ça se soigne. Les thérapeutes rivalisent de solutions, des trucs pour la dompter, la surmonter, s'en affranchir. Comme elle est enivrante, cette promesse, l'illusion qu'on pourrait ainsi nettoyer ses pensées, débarrasser son esprit, comme on le ferait d'un placard, le balayer. Ce petit gravier insistant, pourquoi persisterait-on à boiter quand on peut parcourir sa vie d'un pas alerte ? Dans son baromètre annuel de la précarité, le Secours populaire révèle qu'au vu de l'augmentation des factures, 43% des Français interrogés chauffent peu ou pas du tout leur logement quand il fait froid, 1 sur 3 est régulièrement dans l'incapacité matérielle de faire 3 repas par jour, et 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Mais ne t'inquiète pas, pense à autre chose, susurre ce monde en ruine à ses habitants claudiquants. Bien sûr qu'elle est agréable, la compagnie allègre de tous ceux qui cultivent la faculté de passer au travers du monde sans en être ébréchés. Mais elle laisse un goût amer aussi, cette légèreté d'un déni érigé en art de vivre. Moi, je propose qu'on réhabilite l'inquiétude. Inquiétons-nous. Au lieu d'en faire une hydre à combattre, étudions-la dans toutes ses nuances, puisqu'il nous faut coexister. Si s'inquiéter est considéré comme une déficience, j'aime à penser que c'est une belle faiblesse, un penchant, la capacité à être ébranlé, renversé même. Nous sommes des inquiets parce que nous sommes en vie, parce que nous voyons, parce que nous entendons. C'est un aveu d'humanité.
Et ce titre, Il n'a jamais été trop tard, comment vous l'avez choisi ? Parce que c'est optimiste, en fait.
Oui, finalement, oui, c'est optimiste.
Parce qu'on entend, on entend au contraire, il est trop tard, la planète, tout ça. Mmh. On entend que c'est foutu.
C'est vrai, je n'avais pas pensé sur cet aspect. En fait, j'ai l'impression que le... Alors, je ne suis pas naïve, je veux dire, j'ai aussi des inquiétudes, évidemment, politiques qui ne m'amènent pas forcément du côté de l'optimisme, mais en revanche, j'ai l'impression que c'est un luxe. C'est vraiment quelque chose que je ressens, c'est que le pessimisme ou le fatalisme, c'est un luxe. Et que quand on peut se permettre d'être pessimiste parce qu'on sait qu'au fond, on n'est pas vraiment en danger. Moi, je pense que de se dire qu'il n'a jamais été trop tard et qu'il reste des choses à faire, ça vous oblige à être en mouvement. Évidemment que si je me dis que c'est trop tard, je peux aller me coucher, en fait. Et si vous dites qu'il y a quand même une possibilité, il faut trouver quoi ? C'est quelque chose qui vous force à prendre votre part. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Et vous, dans le fait d'écrire ce livre, vous êtes investi d'une responsabilité ? Vous la définiriez comment, cette responsabilité ?
Comme l'immense chance d'avoir une voix. Je pense franchement que quand on a mon âge, c'est-à-dire plus de 50 ans juste, et qu'on est une femme, on sait très bien qu'on a vécu une partie de notre vie sans voix. C'est pas si vieux, les années 90, que le silence était quand même la règle, que c'était, en tout cas de mon côté, c'était très peu questionné quand j'étais très jeune. J'avais l'impression d'ailleurs que j'avais rien à dire, ce qui est quand même rien de particulier, que tout allait bien. Et je pense que quand on a la chance de vivre une époque, je pense à MeToo évidemment, mais où un mouvement mondial, un mouvement politique quand même, hein, d'éveil des voix de colère au pluriel qui arrive comme ça, il faut prendre effectivement, encore une fois, sa part de responsabilité et en écrire une partie. Moi, de toute façon, je dirais malheureusement ou heureusement, c'est un peu la seule chose que je puisse faire, c'est écrire. Je me suis beaucoup posé la question, y compris dans ces dernières années, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire, en fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, ce que je peux faire, vous pouvez faire des émissions, et vous pouvez parler, et moi, je peux écrire. Donc, il faut le faire.
Vous dites, pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais rien à dire. Mmh. À partir de quel moment vous vous êtes dit, si, j'ai quelque chose à dire ?
Oh là là. Je pense que c'est le tour de passe-passe, en fait, des systèmes de domination que de faire penser à celles et ceux qui sont dominés, que finalement, c'est peut-être pas si grave. En tout cas, pour le féminisme, moi, je pense que dans les années 90, j'avais pas la conscience du tout que la vie n'allait pas être la même pour moi que pour un homme. Moi, j'ai été élevée dans une foi absolue en l'égalité, en imaginant que tout ça était loin derrière, que le féminisme, c'était l'affaire de ma mère. Et c'est le réel qui s'est chargé de me ramener à la raison, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est à partir du viol, en fait, au moment où j'ai été victime de violence, où j'ai lentement pris conscience que non. En fait, que c'était pas du tout réglé, cette affaire. Et ça a été une révélation, je vous dirais, pratique. C'est-à-dire que moi, c'est pas du tout des textes qui m'ont frappée. Ils sont venus après. C'est-à-dire que c'est d'abord la vie où j'ai dû faire une volte-face dans l'imaginaire que j'avais de mon futur. C'est-à-dire que je me suis dit, non, là, tu viens de te prendre dans la gueule, en fait, que non, tu n'as pas la même vie que ton ami. Machin, ou non, tu n'as pas la même vie, tu n'as pas les mêmes chances, ce qui t'arrive est un système, ça n'arrive pas qu'à toi. Et après, les textes et les théories sont venus m'ouvrir des voies, mais ça n'a pas été un savoir théorique au début.
Et il y a la question aussi de comment on est audible aujourd'hui, quand on est un personnage public, quand on est un artiste, c'est une parole qui est vachement décriée.
J'ai l'impression, en fait, mais ça c'est vraiment très très personnel, que l'opinion, en fait, avoir une opinion, encore une fois, c'est Évidemment que j'ai des opinions, mais je pense que l'écriture, justement, elle est ailleurs. Et que dans ce livre-là, il n'est pas question que je fasse un étalage de mes opinions, dont finalement on n'a rien à faire. Et qu'est-ce qu'on en fait des opinions, en fait, là ? Mais de regarder les choses, je parle toujours de la distance, mais en prenant un peu de champ. Moi, j'ai vraiment pas forcément envie de connaître les opinions de tout le monde en ce moment, parce qu'elles se heurtent, c'est comme du granit, hein. Il y a un truc de... Les opinions se heurtent, après vous retournez en vous-même un peu plus blessé. C'est ça qui se passe, hein, quand on rencontre une opinion qui nous blesse, on sait très bien ce que ça fait, c'est dur, et puis vous n'en avez rien retiré. Et moi, j'ai terriblement besoin, depuis quelques années, de lire des auteurs, des autrices, qui me disent comment ils se sont débrouillés dans leur monde, en fait. Vous voyez, pas leurs opinions sur ce monde, mais comment ils ont avancé là-dedans. Les écrivains, ceux que j'aime, ils claudiquent, vraiment. Ceux que j'aime, c'est ceux-là, et donc je dis, ah ok, voilà, t'as posé ton pied ici, ça m'intéresse. Mais c'est pas une histoire d'avis ou d'opinion, parce que ça, on en est vraiment gavé, je trouve.
En boucle, ce morceau, j'avoue, notamment pour le phrasé concassé de cette fille, elle s'appelle Eloi, Aquarius, c'est le titre.
Lola Lafont, Rebecca Manzoni, c'est Totémique sur France Inter.
C'est votre vrai nom, Lola Lafont ?
Ouais.
À
Après avoir interrogé l'histoire et un lieu, à savoir le musée Anne Frank à Amsterdam avec « Quand tu écouteras cette chanson », Lola Lafont interroge notre époque dans un recueil de textes intitulé « Il n'a jamais été trop tard ». Il s'ouvre avec la question d'une jeune fille. La jeunesse est d'ailleurs l'un des fils rouges de ce livre.
Ben finalement, j'en sors pas, hein, parce qu'il y a tellement d'adolescentes dans mes romans aussi. Même quand j'imagine qu'elles n'y seront pas, les revoilà. Oui, parce que je pense que d'abord, il y a le fait que dans mes lectrices et lecteurs, il y a des gens très jeunes. Et que je suis souvent très émue. Parce que l'idée que j'adore, c'est de vieillir avec les lecteurs. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé il y a très peu de temps. Je me suis dit, ah ben, là, il y a des gens que je vois encore qui reviennent. Donc, on est en train de vieillir ensemble. J'adore l'idée. Et ce livre vient de là, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous maintenant, au bout de 20 ans de publication ? Eh bien, c'est ça. C'est de vous parler de qu'est-ce que ça veut dire de perdre un parent, comment je peux prendre, moi, le pouls des deux années qui viennent de s'écouler, pourquoi, quand il y a une guerre loin, on ne peut plus se parler ici. Toutes les questions qui sont... les discussions qu'on peut avoir dans un dîner entre amis, quoi, en fait, vraiment, moi, j'avais envie qu'elles soient écrites, de partager ça. Et puis... viennent s'ajouter au tableau les très jeunes qui n'étaient pas là quand j'ai publié mon premier roman. Et ça, je vous avoue que quand je vois quelqu'un qui a 16 ans, 18 ans, qui vient avec une fièvre impossible à négocier,
qui est le titre de votre
premier roman publié à 20 ans, ça me bouleverse parce qu'à l'époque, on m'a dit que c'était un roman générationnel, je me rappelle. J'étais d'ailleurs très vexée parce que j'avais bien compris que ça voulait dire « tu vas pas rester longtemps ». C'est ça que ça veut dire. Et je me dis... c'est bien plus mystérieux que ça, finalement. Si des gens de 16-18 ans peuvent lire l'histoire d'une jeune fille de 25 ans, du début des années 2000, dans les mouvements autonomes, dans les squats, et comment le viol va devenir une prise de conscience qui va l'amener vers une reconstruction réelle, dans aussi une construction politique, je dirais, elle va sortir d'elle-même, finalement. Hein. Et ben, je me dis... j'adore cette idée que les histoires n'ont pas d'âge. Et on le sait, en fait, hein, mais quand ça vous arrive à vous, c'est un peu différent. Donc voilà, la présence des jeunes, effectivement, ça commence, il n'a jamais été trop tard, par une jeune fille, je me demande si elle se reconnaîtra, que j'ai réellement rencontrée dans une rencontre littéraire, et qui m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je dirais à Anne Frank, qu'est-ce qu'Anne Frank me dira quand on se rencontrera dans l'au-delà. Elle m'a posé cette question en public et elle avait une telle foi, pour le coup, dans ce qu'elle disait. Et les adultes autour d'elle étaient tellement en jugement, en train de se dire « mais c'est ridicule cette question », etc. Et c'était si fort et si beau que je ne peux pas l'oublier, pardon. Je ne peux pas oublier la réponse qu'elle m'a faite, etc. Ça commence par elle, ça continue par des ados qui m'ont confié une liste de leurs peurs, un jour, dans une classe où j'étais allée. Ils m'ont écrit une liste de leurs peurs. Collectivement, on avait fait ça. Et pourtant, je ne suis pas beaucoup en contact. C'est-à-dire, je ne fais pas d'atelier, je ne fais pas... Mais ça reste inoubliable quand ça m'arrive.
On sent que vous avez un lien facile avec la jeunesse. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Ben peut-être parce que j'écris à partir de là, dans le sens où je pense que... y a un texte dans... Il n'a jamais été trop tard sur l'anorexie. Et sur cette interrogation du silence... de qu'est-ce que c'est cet énorme silence de l'anorexie. Et je me dis maintenant, aujourd'hui, moi, des décennies plus tard, est-ce que j'ai pas envie de pouvoir questionner ce moment-là et de pouvoir pas apporter de réponse, parce que vraiment, j'en suis incapable, mais de me poser au moins une question que j'ai envie de transmettre. Alors, je dirais aux filles, parce que c'est quand même plus une histoire qui arrive aux jeunes femmes, de me dire aujourd'hui pourquoi. C'est quand on a quelque chose d'énorme à dire, de très puissant, pourquoi les femmes choisissent de disparaître. C'est vraiment quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est la disparition du corps. Pourquoi les femmes s'amenuisent pour dire quelque chose. Et voilà, c'est mon rapport à la jeunesse, c'est peut-être tout ce que j'ai pas pu dire quand moi j'avais 15 ans. Mais, une question je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on devient la personne qui nous aurait sauvés à l'adolescence? Moi, c'est quelque chose où je me dis, moi, je crois que c'est ça que je suis devenue. C'est celle que je n'ai pas rencontrée. Si j'ai essayé de devenir la personne qui m'aurait sauvée, je pense.
Donc, il vous reste énormément de cette adolescence.
à vous écouter, c'est à la fois une période extrêmement douloureuse.
Oui.
Et en même temps, d'une certaine façon, vous la chérissez aussi. Non pas pour se complaire dans la douleur, pas du tout, mais il y a quelque chose de... Je sais pas si c'est de la fougue,
Oui, il y a une grandeur dans l'adolescence, non? Et c'est ça qui est le bouleversant, et qu'on a toujours envie de protéger. Quand on voit des adolescentes et des adolescents, c'est cette grandeur, quoi. C'est vraiment... Vous sentez très bien ce moment où ça cogne de tous les côtés, quoi. Ça se cogne... Et vous avez envie de l'accompagner. Alors moi, je ne suis pas mère, donc j'ai une place qui est peut-être plus facile, mais les adolescents autour de moi, de mes amis, donc les enfants de mes amis, je les regarde avec admiration parfois, et aussi parfois un peu de... Vous avez envie de les aider d'une manière ou d'une autre, et finalement, vous dites, mais non, ce qu'il faut, c'est leur faire confiance. Ça, je le pense réellement.
La dernière séquence de l'émission, c'est donc une séance photo.
Oui.
Vous êtes d'accord ?
Ben oui.
C'est un « bah oui » qui veut dire « j'ai pas le choix ».
Je ne sais pas comment me tenir.
On pourrait faire ça avec le mur de pierre en fond.
Ouais. Et donc c'est là ?
Ouais, ça me semble pas mal.
Bon, ok. Non mais c'est bien, vous avez un Polaroid. Enfin, c'est pas un Polaroid, on dit pas ça ?
C'est un Polaroid.
Moi j'adore, je continue à trouver ça.
C'est flou et sans retouche.
D'accord. Je pense que le fait de dire à l'avance c'est flou et sans retouche, vous voyez, c'est comme on s'appuie, ça fait du bien. On sait que rien n'est possible. Et finalement, c'est quand trop de choses sont possibles, c'est très angoissant. Attention.
Vous apparaissez petit à petit avec votre gilet rouge, votre blondeur.
Ouais.
Si ça vous va pas, je refais.
Ah bah non, enfin, on a dit que c'était sans retouche et. Oui, j'ai l'air un peu, genre, accablé, quoi.
Ah bon ?
Non, ça va ?
Attendez.
Mais on va aller...
Je mets les lunettes. Bah non, vous souriez.
Non, ça va, je souris, bon.
Bah oui.
Ah bah alors, tout va bien. On a vraiment l'impression que j'ai été, vous savez, obligée, quoi. Non, j'ai pas l'air un peu trop... ça va ?
Ah non, pas du tout.
Écoutez, bah, c'est très bien. Vous voyez comme quoi on sait jamais pour soi-même, quoi.
Merci beaucoup Lola Lafont.
De rien.
Il n'a jamais été trop tard de Lola Lafont est publié chez Stock. Koy Nguyen, réaliste totémique, et c'était avec Guillaume Roux ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulesco prépare l'émission et pour la bande originale du jour, Jean-Baptiste Audibert avait choisi Eloi et Rosalia. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous dans un théâtre avec Camille Cotin et dans une poignée de minutes, vous retrouvez Ali Rebéi pour Grand Bien vous fasse.